Moi, l'idée, contrairement à Duolingo, qui, on va dire, va vous faire apprendre des phrases qui servent à rien, genre « j'ai marché sur la queue du serpent », moi, l'idée, c'est vraiment de m'intéresser aux besoins des personnes qui vont dans nos formations. Genre, par exemple, demain, t'arrives, tu me dis « écoute, Marcus, il faut que je pitche mon projet devant des investisseurs tech à Dublin, et je sais que certains sont dublinois et vont venir me parler avec leur accent irlandais terrible. J'ai besoin, d'une, de savoir pitcher en anglais standard, mais également d'avoir l'accent de Dublin. Comme ça, je pourrais parler aux gens pendant mon voyage. Et c'est là-dessus que je me concentre. Et après, en attisant le feu de leur curiosité, eh ben on les pousse à aller encore plus loin et à continuer.
Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com.
Bonjour Marcus, merci d'être présent avec moi.
Bonjour Aliette. Comment ça va ? Eh bien écoute, ça va et toi ?
Super. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. J'ai hâte qu'on parle des formateurs, des langues, de ce que tu fais. Mais avant que je te pose quelques questions, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter et me raconter ce que tu fais ?
Complètement. Alors moi, je suis Marcus Détré. J'ai lancé mon organisme de formation Calliope qui s'appelle Snakar. Snakar, c'est à l'origine un mot norvégien qui veut dire discuter, chatter. Je m'étais lancé à l'origine sur de la formation en norvégien puisque c'est les premières demandes en tant que formateur que j'avais eues. Et puis finalement, je me suis réorienté vers d'autres langues puisque j'ai plusieurs certifications à mon actif. J'ai validé mon niveau C2 en suédois, je suis natif anglais, français, bilingue. J'ai l'allemand, j'ai le norvégien, j'ai d'autres langues. Et pour les langues que je n'enseigne pas, dans lesquelles j'ai des diplômes, eh bien je prends des formateurs avec moi. Donc mon aventure a commencé il y a 4 ans, je viens de fêter mon 4e anniversaire d'entrepreneuriat, donc c'est très agréable, on va dire, et aujourd'hui j'en suis là. Je suis formateur en langue et directeur de centre.
Trop bien, alors moi je serais curieux que tu me racontes comment ça se fait que tu parles autant de langues et comment tu as réussi à faire ça, mais avant qu'on parle de ça, est-ce que tu peux me dire un petit peu plus là où tu en es aujourd'hui, parce que tu parlais d'autres formateurs, combien ça représente à peu près de formateurs, de séances, de comment ça se passe ?
Alors concrètement, j'ai été face à un dilemme, comme beaucoup d'entrepreneurs, qui était le dilemme d'augmenter mes prix et d'écrémer un max, ou de déléguer mon travail à d'autres. Et j'ai choisi en fait de ne pas refuser de gens, mais au lieu en fait de tous les prendre et de prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et autres, puisque j'interviens également dans différentes écoles de business et d'ingénierie en région PACA, puisque je suis basé sur Marseille, mais j'ai décidé de prendre des formateurs avec moi. Ces formateurs, je les forme de A à Z de manière complètement gratuite puisque ils font partie de mon équipe. C'est des gens que je connais depuis plusieurs années, qui sont des experts en langue, très diplômés, en tout cas beaucoup plus que moi dans leur domaine. Je me suis entouré vraiment de pointures et mon but en fait, c'est de retranscrire cette passion des langues en attisant la curiosité de nos apprenants, en les immergeant totalement dans la langue pour qu'ils puissent avoir des résultats vite et bien, et qu'ils puissent éviter ce côté frustrant que beaucoup de formations en langue ont. Donc aujourd'hui, dans mon centre, on a plus de 10 formateurs dans 7 langues différentes, et on propose également des langues un petit peu waouh, tu vois, genre avec, je sais pas, des dialectes du chinois, ou alors de la LSF, langue des signes française, et ainsi de suite.
Donc là, tu es en train de me dire qu'il ne faut pas juste que j'apprenne les langues, il faut en plus que tu me formes. C'est quoi la différence ? À quoi tu formes tes formateurs afin que derrière, ils performent mieux ?
Alors en fait, je forme mes formateurs à ma méthodologie d'apprentissage des langues qui m'a permis d'apprendre, enfin de me certifier d'une en 6 langues différentes et d'en apprendre en parallèle 10 autres. Je suis, on va dire, dans mon domaine, dans la polyglossie, c'était vraiment dans le multilinguisme, on va dire. J'ai la la capacité à pouvoir emmagasiner beaucoup de données, mais c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, j'y suis entraîné, et je les forme à utiliser ma méthodologie d'apprentissage des langues, qui permet d'obtenir beaucoup de vocabulaire vite, de les garder sur le long terme, et puis ben, en même temps, tout simplement, de performer en langue.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi concrètement ? Parce que là, tu dis beaucoup de vocabulaire, c'est quoi ? C'est du coup, tu encourages d'apprendre 1000 mots pour commencer, et après, on commence à regarder un peu plus la grammaire. C'est quoi la différence avec un Duolingo, par exemple ?
Alors, on a dit les termes. On a dit les termes énervants. Alors, Duolingo, concrètement, bon, moi, j'ai aimé Duolingo pour certaines choses, notamment, bah, par exemple, la gamification. C'est un très bon jeu, oui. Mais en termes d'application linguistique, pour avoir travaillé avec eux en modération, c'est plus compliqué. Moi, l'idée, contrairement à Duolingo, qui, on va dire, va vous faire apprendre des phrases qui servent à rien, genre « j'ai marché sur la queue du serpent rouge », voilà. Moi, l'idée, c'est vraiment de m'intéresser aux besoins des personnes qui vont dans nos formations. Genre, par exemple, demain, tu arrives, tu me dis « écoute, Marcus, il faut que je pitch mon projet devant des investisseurs tech à Dublin. Et je sais que certains sont dublinois et vont venir me parler avec leur accent irlandais terrible. J'ai besoin, d'une, de savoir pitcher en anglais standard, mais également d'avoir l'accent de Dublin. Comme ça, je pourrais parler aux gens pendant mon voyage. Et c'est là-dessus que je me concentre. Et après, en attisant le feu de leur curiosité, eh ben on les pousse à aller encore plus loin et à continuer.
Donc le secret, c'est la motivation. Il faut trouver le point qui fait qu'on a envie de continuer. Est-ce que c'est ça le plus dur, finalement, dans les langues, de rester motivé, ou est-ce que c'est quand même autre chose ?
Alors, la motivation, j'aime pas trop ce terme. Au total, il y a deux termes que j'aime pas. Il y a la discipline et la motivation. Je ne suis ni motivé ni discipliné. C'est un point sur lequel dont je parle énormément sur LinkedIn. Je suis très actif sur LinkedIn, je poste presque une fois par jour. Et si vous regardez les commentaires que je lâche, c'est souvent à propos de ça. C'est-à-dire que moi, je me sens ni motivé ni discipliné, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pour moi, ce qui compte, c'est l'objectif de départ, la mission de départ. À quoi correspond-elle ? Est-elle assez forte ? Et est-ce que je vais avoir besoin justement de me doper à la motivation à coup de gros renois qui parlent en vidéo et qui sont pleins de stéroïdes et qui ont crié « Fais-le !» Tu vois ? Donc l'idée, tu vois, c'est d'éviter ça et de rester, on va dire, droit en connaissance de cause, en sachant dans quelle direction on va. Et si un jour on loupe une séance, c'est pas grave. On n'a pas besoin de motivation, on n'a pas besoin de discipline puisqu'on sait dans quelle direction on va. Pour moi, c'est ça le plus important, que ce soit dans l'apprentissage d'une langue, apprentissage de n'importe quoi d'autre. J'apprends des langues de programmation aussi, j'utilise ça. Ou même, dans le business, tout simplement, quand on ouvre un business, on a besoin d'avoir une mission de départ, une vision de départ.
Et alors, toi, en l'occurrence, tu me racontes que tu parles un peu plus de 10 langues. A priori, t'as pas encore une entreprise qui a un empire, qui a besoin d'être dans 10 pays à la fois. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à faire motivé. Alors, du coup, je sais plus quel terme utiliser, mais qu'est-ce qui a fait que tu as appris 10 langues ?
Bah, en fait, j'ai toujours eu une appétence pour les langues. C'est-à-dire que mes parents ont très vite décelé que j'avais cette appétence pour les langues, puisque quand j'étais enfant, je calligraphiais des trucs, j'inventais des mots.
Ah oui, donc dès tout petit.
Okay. Dès tout petit. Mon grand-père était déjà polyglotte dans les années 30-40, puisqu'il parlait plusieurs dialectes du chinois. Il n'y avait pas Duolingo à l'époque. Hein. Et même, je crois qu'il y avait. Je me demande s'il y avait. C'était pas les débuts d'Assimil. C'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Donc il parlait l'espagnol, il parlait le français, l'anglais, le javanais, le russe, le chinois, ça n'avait aucun sens quoi à l'époque. Et c'est quelque chose qui s'est transmis, en fait. Ma mère est trilingue par exemple, un de mes oncles est pareil polyglotte, c'est quelque chose qui est resté. Et j'ai toujours évolué en fait dans cet environnement-là, et ça m'a sorti d'énormément de situations. Et en attisant justement cette curiosité, ce qu'ont fait mes parents avec moi, eh ben, j'en suis amené à apprendre une langue, puis à m'intéresser au pays d'à côté, à apprendre la langue du pays d'à côté, et ainsi de suite. C'est ce que j'ai fait, par exemple, avec le norvégien, suédois, danois et islandais. Des langues très proches, et qui, en fait, une m'a permis d'apprendre les autres, tout simplement.
Et t'es pas un peu confus, au bout d'un moment ? Tu mélanges pas les mots entre suédois, norvégien, danois ?
Si, bien sûr. Parfois, il m'arrive, par exemple, bah, en plus de ça, je vais pas te mentir, dans ces langues-là, il y a des dialectes. J'ai été en étude en Norvège. Ah ouais. Pendant un an, j'étais en étude en Norvège et on avait trois grosses villes dans la région dans laquelle j'étais, à la frontière de la Suède, avec la Suède. Et en fait, Il y avait trois villes, trois dialectes. Voilà. Donc il fallait connaître les dialectes locaux, plus le norvégien de la région, plus le norvégien national. Et comme on allait faire nos courses en Suède, il fallait parler le suédois. Donc évidemment, quelquefois, il y avait des petites confusions par-ci, par-là. Mais c'est resté globalement mineur, et puis au bout d'un moment, ça se gomme. C'est comme un bouton on-off, si tu préfères.
Ouais. Ouais, et puis il faut pratiquer, j'imagine, hein, y a pas de secret, au bout d'un moment.
Se jeter à l'eau, pratiquer un max et sauter sur toutes les petites opportunités qui nous permettent de pratiquer. Un touriste qui est perdu dans la rue, on lui saute dessus, on lui propose de l'aide. Ouais, c'est, tu vois, c'est ce côté-là. Hier, j'ai eu un petit problème de bruit avec un de mes voisins, qui est arménien et qui parle arménien et russe. On s'est rendu compte qu'on parlait un petit peu, enfin, moi je parlais un petit peu russe, lui il parle très bien russe. On a pu communiquer comme ça. Donc ça nous a sorti d'une situation où ce serait regardé en chien de faïence entre voisins, ça aurait été compliqué. Finalement, bah, on boit le café et ça se passe très bien.
Ouais, donc ça évidemment c'est super, et toi tu as eu la chance visiblement d'avoir une enfance qui était très autour des langues. Moi j'ai 25 ans, admettons que j'ai pas eu cette chance, alors j'ai la chance quand même de parler anglais, mais pas beaucoup d'autres choses, je suis foutu. comment je peux me... Et alors, est-ce que quand même, plus on est vieux, plus c'est dur, c'est quand même une réalité, ou toi tu sens que finalement, non, pas tellement, t'as des gens qui ont 50 ans, qui apprennent aussi bien des langues que quelqu'un qui a 20 ans, par exemple. Et comment je peux faire pour faciliter, je dirais, l'apprentissage?
C'est une question... Alors, pour moi, c'est un problème qui est vraiment multidimensionnel. D'une... c'est vrai, la plasticité mentale n'est pas la même entre le moment où on a 20 ans, enfin 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pour ça que le mot adulte signifie qui va vers le déclin, en fait. Tu vois, qui va vers la, qui définitivement, c'est, voilà, c'est qui va vers la mort, le mot adulte, c'est ce que ça signifie dans sa racine étymologiquement. Mais en fait, bon, malgré, on va dire, ce problème de plasticité mentale, on va dire, qui avec l'âge diminue. Quand même, j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup étonné. Notamment, j'ai eu un formé, un monsieur très sympa, qui s'appelle Claude. Bonjour à Claude, s'il m'écoute, mais ça m'étonnerait. 79 ans, apprend l'anglais pour parler avec ses petits-enfants, puisque son fils s'est marié avec une Anglaise et qui vit au Royaume-Uni. Donc, ses petits-enfants ne parlent pas le français et il a besoin de leur parler.
Quelle motivation. Là, du coup.
Et voilà.
C'est sympa.
Et ça, quelle mission, entre guillemets. C'est ce qu'il y a de plus beau, finalement. Donc, c'était un plaisir de l'accompagner. Au total, 30 heures de travail. Et à la fin, un niveau pas parfait, mais un très bon niveau par rapport à ses objectifs. Donc, c'était vraiment très satisfaisant. Donc, il y a ça qui entre en compte. Mais il y a aussi l'éducation et, c'est bête, mais l'école. L'école, c'est un des points de rupture que j'ai avec beaucoup de formateurs, c'est que l'école en France, pour l'apprentissage des langues, elle n'est pas optimale. Moi, j'ai appris l'anglais en Irlande en étant écolier en Irlande, et quand je suis rentré en France de mon école en Irlande, ben, je parlais et le dialecte local, et le dialecte de la ville d'à côté, et en plus de ça, l'anglais standard. Je n'avais jamais entendu une seule fois parler des verbes irréguliers. On ne me les a jamais appris. Quand je suis rentré en France, c'était « apprenez vos verbes irréguliers, si vous les apprenez pas, vous aurez une mauvaise note, patati patata ».
Mais alors, t'as pas de petits Irlandais qui courent autour de nous en France pour apprendre l'anglais. Comment on fait pour retrouver un environnement qui, parce que de ce que je comprends, hein, qui est peut-être un peu plus pratico-pratique, comment vous simulez ça? Comment t'encourages tes formateurs à créer ça?
Déjà, on a la No French Policy, pas de français.
Ok.
Ça, c'est une première chose. On ne communique qu'avec les moyens du bord. Donc pendant une heure, au début c'est très fatigant, on le fait au téléphone, on le fait en visio, on le fait en direct, mais pendant une heure, on est en immersion pure et dure. Une immersion qui est à la fois verbale à travers la langue, mais également non-verbale à travers la gestuelle, puisque non-verbale s'adapte d'une culture à une autre. Mais en plus de ça, on a ce côté tradition et culture qui se ressent, et on instaure réellement une ambiance qui permet à la personne de se dire, d'avoir des marqueurs en fait. Tu vois, de voir que telle chose se fait par telle personne, pourquoi est-ce que ça se fait. En apprenant des listes de vocabulaire qu'on donne à la fin de chaque cours, la personne revient avec des questions ils sont répandus dans la langue, et on avance pas à pas de cette manière. Évidemment, il y a plein de types de cours. Il y a aussi des gens qui me disent qu'ils ne cherchent pas d'immersion. Dans ce cas, ces personnes-là sont, pour ces personnes-là, le programme de formation est adapté. Et pour les personnes qui cherchent de la full immersion, c'est quelque chose que l'on fait à travers la No French Policy.
Et donc, tu acceptes quand même qu'il y ait des personnes qui te disent « Non, non, moi, je ne veux pas cette No French Policy », malgré le fait que tu penses que c'est mieux, de ce que je comprends, pour apprendre. Comment ça se fait que tu t'adaptes? Pourquoi tu acceptes ça?
Bah, en fait, j'accepte ça tout simplement parce que certaines personnes n'ont pas envie d'être frustrées. Vous avez des personnes qui sont, vous savez, je vais pas dire des battantes et les autres seraient pas des battants, mais il y a des personnes qui ont besoin de prendre des coups de pied aux fesses et de se retrouver dos au mur. Avec d'autres personnes, ça ne marche absolument pas. Mais la finalité, le but final de l'apprentissage de la langue, c'est que la personne ressorte contente, curieuse et intéressée par le sujet. Parce que même si, par exemple, une de nos formations foire, ça arrive quasiment jamais. Mais si, par exemple, la personne se dit « Ah, est-ce que j'ai vraiment eu l'impression de progresser ou quoi que ce soit ?» La réalité, c'est que si elle est déjà ressortie intéressée, curieuse et que ça lui a donné envie de continuer à apprendre, pour nous, c'est déjà mission réussie. Parce que je me retrouve devant tellement de gens qui viennent et qui me disent « Ah, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ce que je devrais faire » et qui ressortent, ne serait-ce qu'avec une méthodologie d'apprentissage, qu'un an après, je les rappelle et les mecs sont bilingues. Et on se dit « c'est fabuleux ». C'est pour ça que nos premiers cours et nos derniers cours, c'est de l'autonomie pure. On leur enseigne l'autonomie.
Ok, ouais, c'est super intéressant. Et est-ce que pour ça, vous avez certains outils, que ce soit des méthodes, des outils digitaux, des choses qui vous permettent de mieux gérer ça?
Des méthodes qui nous permettent de mieux gérer quoi exactement? L'autonomie?
L'autonomie, le fait de... Tu vois, la No French Policy, j'imagine quand même à un moment, il y a un peu de friction, mais est-ce que du coup, tout se fait uniquement à l'oral et dans l'échange avec la personne, ou est-ce que vous reposez sur parfois des vidéos, des images, des outils, des jeux, je ne sais quoi?
Jeux, pas vraiment. Outils, oui. J'utilise Obsidian avec mes apprenants. Alors Obsidian, c'est un éditeur de texte extrêmement simple, hein, mais qui, avec un ingénieux système de liens et de tags, permet de lier des pages les unes avec les autres. Et à la fin, ça donne une vision en constellation qui visuellement, en fait, représente quelque chose pour l'apprenant, soit une copie conforme de ce qu'elle a fait dans notre matière. Et du coup, en liant les points, en voyant comment ils sont liés et ainsi de suite, elle peut créer un système de pensée dans la langue. Puisque nous, on enseigne à penser dans la langue, pour pouvoir s'exprimer fluidement. Puisque ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, les mots viennent aisément. Voilà, merci ma prof de français, Madame Fabre Lalbin, au lycée que je ne citerai pas. Mais voilà l'idée. Donc on utilise Obsidian, et pour les mots de vocabulaire, on utilise Anki, qui est une application de flashcards très peu marketable. Elle est très moche. Mais en réalité,
mais ça fait le taf.
On le cherche. Mais ça fait le taf. Et tu vois, ça fait même c'est le ça. Café. Donc voilà, a priori, c'est quelque chose qu'on utilise et qui permet d'apprendre énormément de vocabulaire sur une technique de répétition espacée.
Est-ce que vous encouragez les étudiants à créer leur propre flashcard, ou est-ce que vous fournissez un paquet de flashcards en disant « Allez, tiens, voilà les 300 mots que tu dois relire pour la semaine prochaine ?»
Alors, à la fin de chaque séance, on envoie toujours un paquet de flashcards. Parce que c'est plus simple, ça permet de, ouais, comment dire, de faire en sorte qu'il y ait une continuité dans les acquis, en fait. Par contre, on aime bien que les apprenants créent leurs propres flashcards et qu'ils nous les envoient pour qu'on les corrige. Parce que ça prouve qu'en fait, ils travaillent à côté. Ça, c'est le grand fléau des profs de langue. Je pense que s'il y a des formateurs en langue qui nous écoutent, ils pourront acquiescer. En fait, on a énormément de gens qui viennent en cours et qui ne travaillent pas à côté. Ils se disent « Ah bah ça va être acquis. C'est bon, cet après-midi j'ai mon cours avec un tel. Bon, bah très bien, basta. Après j'arrête, j'en fais plus, je fais autre chose. » Mais c'est une grosse bévue. Une langue, ça se vit, ça se respire, ça se mange, ça se pratique, ça s'écoute, ça s'écrit. Enfin, il faut vraiment, on la vit en fait. C'est pour ça que c'est une langue vivante et pas une langue morte. Il faut la pratiquer à côté. Tu vois, c'est ça le truc. Donc, okay. s'ils arrivent et qu'ils nous disent « Ah, bah, j'ai fait tant de cartes », bon, bah, c'est génial, en fait. Parce que ça veut dire que la personne, encore une fois, est tombée dedans.
T'as des petits tips pour encourager l'usage de la langue, en tout cas, y repenser en dehors des cours, à part donc ces petites flashcards?
Complètement. Alors déjà, vous avez des associations qui sont top. Mention au Polyglot Club, qui est dans presque toutes les villes de France, même des mini patelins français, elles y sont. Il y a des membres de cette communauté. Dans les plus grosses villes telles que Marseille, Paris, Aix, celles que je côtoie en tout cas, ces villes dans lesquelles je me déplace, ils organisent des cafés polyglottes dans lesquels vous pouvez rencontrer des natifs. C'est un droit d'entrée généralement à 2€ pour la sauce et il faut payer une conso parce que ça se passe dans les pubs, donc dans les bars. Donc il faut payer une conso quand même pour soutenir le bar. Ça, c'est une première chose. Après, encore une fois, il faut être opportuniste. Et quelquefois, il faut créer l'opportunité. Par exemple, avec ce petit litige que j'ai eu avec mon voisin, dans lequel j'aurais très bien pu décider de ne pas m'ouvrir à lui, puis juste faire la tronche et m'en aller, il y a eu cette volonté de discuter, même si, encore une fois, mon niveau de russe, il est nullissime. Mais au moins, maintenant, on peut communiquer.
Donc, oui, c'est mieux que rien.
C'est mieux que rien. Exactement. Et en réalité, vous avez des nationalités. Je prends les Chinois, c'est mes préférés, qui font des doubles backflips quand on parle leur langue, même quand on la parle super mal. Ils sont tellement contents que quelqu'un s'intéresse à leur langue que voilà, c'est la fête. Derrière, ils sont super satisfaits. Du coup, ça crée du lien. Puis on peut même se faire des amis.
Ok, super. Et alors moi, de ce que je comprends, tu as un public visiblement qui parfois a une super mission, comme le grand-père qui parlait à ses petits-enfants. Donc ouais. Ça, c'est clairement, là, on peut imaginer qu'il a envie de continuer à apprendre et à exercer tous les jours. Et est-ce que ça t'arrive aussi de prendre des publics peut-être un peu moins enclins, justement, à avoir une envie d'avancer? Je pense par exemple aux formations en entreprise, où on va encourager peut-être l'apprentissage, de l'anglais, parce que on est dans une entreprise française qui se tourne vers l'international et on doit parler anglais, mais les employés ont peut-être un peu moins envie. Est-ce que tu refuses de prendre ces personnes-là, ou est-ce qu'à l'inverse, tu les prends et tu t'adaptes un petit peu la méthode?
Alors, généralement, je les prends en adaptant ma méthode. Par contre, je vais pas te mentir, si dans la rencontre initiale, il n'y a pas ce truc, tu sais, vraiment, le mec, il y va à reculons, et il, déjà, ça m'est déjà arrivé, quand d'emblée, il arrive, et il dit, écoute, j'ai du CPF, là, il faut que j'utilise. Alors, en fait, pourquoi? Tu vois, genre, et du coup, tu veux apprendre l'anglais ou pas? Non, je m'en fous, c'est juste que, non.
Je voulais dépenser l'argent, alors, c'est tout.
Je voulais vite, je suis un consommateur compulsif, là, il faut que j'aligne, là. Non, alors, eux, non. Tu vois, dans les entreprises, généralement, ça se passe pas comme ça. Quand j'interviens en entreprise, même s'il y a des gens un peu réfractaires, on le sent parce qu'au début, pendant les séances de Icebreakers, quand on se rencontre, on brise la glace et on discute de leur rapport à l'anglais, beaucoup me disent « Oh là, mon professeur au collège, madame machin, elle était nulle, puis en plus elle est partie la moitié de l'année parce qu'elle était déprimée, patati patata, voilà, bon la classique ». Même s'il y a ça, le simple fait de leur avoir donné envie, derrière, ça ne peut que créer l'effervescence. J'ai jamais eu de problème en entreprise. Par contre, j'ai eu des problèmes avec des particuliers pour ça.
Ah ouais, ok.
Là, non. Oui. Et les particuliers, par contre, je les refuse. Ouais.
D'accord. Ok.
Complètement.
Ok, ok. Et c'est quoi ton icebreaker préféré?
Mon icebreaker préféré. Alors, j'aime bien le jeu des anecdotes. On donne des anecdotes un petit peu rigolos, on essaie de les formuler en anglais, et alors quand on peut, hein, sinon en français, c'est le vrai ou faux. Un fait sur moi, vrai ou faux, et on essaie de le deviner, et ça permet de beaucoup, beaucoup mieux se connaître, et surtout d'instaurer une véritable ambiance. Ça force les gens aussi à pousser un petit peu leur créativité, et à essayer soit de trouver le meilleur mensonge, mais qui passera vraiment le mieux, soit au contraire de faire savoir un truc de zinzin sur eux qui pourrait créer des affinités, plus que professionnelles. Presque envie de dire que si on est capable d'aller boire des coups avec ses collègues après le travail, c'est peut-être que c'est les meilleurs collègues, finalement.
Génial. Mais écoute, merci là-dessus. Alors, je vais prendre un tout petit peu de hauteur maintenant et te demander comment ça a évolué entre être formateur tout seul, parce que j'imagine qu'au début, tu n'avais pas 10 autres formateurs autour de toi, et entrepreneur, gestionnaire d'entreprise. Et finalement... Alors, d'ailleurs, est-ce que tu continues quand même à donner des cours toi-même aussi ou est-ce que tu...
Oui,
oui, oui, tu en as encore. Ok.
Oui, et j'aime donc, trop ça.
Mais bon. Mais bon, plus le temps va évoluer, enfin, en tout cas, ce que je te souhaite, si l'entreprise grossit, ça va moins arriver. Comment se passe l'évolution ? Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit comme c'est aujourd'hui, ta vie de tous les jours, de gérer d'autres collaborateurs ? Quels sont les challenges que tu as eus ? Et qu'est-ce qui te plaît moins ? Et qu'est-ce que tu aimes ?
C'est une vaste question.
Vaste question, oui.
Ouais, et puis c'est un dilemme qui est très récent, en fait, hein, parce que moi, je gère une équipe de formateurs depuis très peu de temps. C'est-à-dire que je fais ça depuis quelques mois, mais je le préparais déjà en amont. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'était de trouver des copains pour travailler avec moi et qu'il y ait une bonne ambiance et que ça soit sympa et qu'on rigole et qu'on se paye et que ça soit un délire et qu'on fasse ce qu'on aime.
Et alors, comment tu as fait ça ? Comment tu as retrouvé ces personnes ? Parce que là, ça a l'air d'être plus que juste des freelances que tu as trouvé au hasard sur Internet, j'ai l'impression. C'est... Comment tu as fait ça ?
Alors, en fait, moi, je prends des cours de langue pour moi.
D'accord.
C'est-à-dire que je prends des cours de chinois.
J'ai un cordonnier bien chaussé pour le coup.
Et voilà, c'est drôle parce que c'est exactement ce que je me suis dit quand je me suis dit, il faudrait peut-être que je mette mes compétences, tu sais, à niveau. Et je me suis dit, vas-y, je vais prendre une formatrice en espagnol, une formatrice en chinois, un formateur en arabe. Et puis, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. J'ai pas hésité, en fait, à changer de formateur. À un moment, je tournais à 4 formateurs pour la langue chinoise. Et c'est bête, mais en l'occurrence, il y en a une avec laquelle ça a vraiment matché. J'ai trouvé que la méthode était bien rodée, que ça apportait quelque chose. Et donc ensuite, je lui ai dit, écoute, si tu veux, tu peux me rejoindre sur mon centre de formation et travailler ensemble. C'est ce que j'ai fait pour la quasi-totalité de mes formateurs. Ce que je n'ai pas choisi avec ce processus-là, je suis allé les chercher en fonction de la demande, puisque j'avais de la demande et que je ne me sentais pas de le faire moi-même. Et puis parce que je n'ai pas le diplôme aussi, donc je ne peux pas le faire. Et du coup, là, je suis allé chercher, j'ai fait des auditions, et j'ai vu avec qui ça pourrait matcher le mieux. Et des 15-16 formateurs que j'ai rencontrés, j'en ai gardé un seul, avec lequel je développe. Donc je suis passé par un processus, pour certains, de recrutement traditionnel, avec dépôt de CV, lettre de motivation, ça je m'en fiche un peu, mais surtout dépôt de CV. Je suis allé voir leur réseau, voir s'ils postaient sur le sujet ou quoi que ce soit. Et puis ensuite, évidemment, rencontre, première rencontre, deuxième rencontre, en plusieurs rounds.
Ok, et donc là, on arrive à aujourd'hui, tu as plusieurs formateurs autour de toi. Donc, je repose la question, comment ça se passe, comment ça a évolué ?
Mais ça se passe extrêmement bien, dans le sens où maintenant qu'ils sont formés aux attentes de nos apprenants et à mes attentes aussi personnelles, puisque on va pas se mentir, c'est mon projet, tu vois, ma vision et ainsi de suite, ça se passe, j'y ai bien. Par contre, au niveau des défis que j'ai dû relever, ça a été au départ le fait d'avoir une vision commune. Alors que moi, j'ai une vision très sociale et sociétale de ce que je veux offrir aux gens. J'ai envie que les Français parlent des langues étrangères. D'une, parce que c'est bon pour soi de parler des langues étrangères. De deux, parce que ça ouvre des portes insoupçonnées. Et de trois, pour arrêter de nous faire passer pour des OSS 117 à l'étranger. Ça, c'est encore autre chose. Et c'était pas forcément les motivations de certains de mes formateurs qui ont vu des... On va dire de ce que j'offre derrière à mes formateurs, de la clientèle, mais aussi des prix des formations, ont vu, pour certains, plus le côté argent. Mais naturellement, il a fallu leur montrer qu'il pouvait y avoir quand même un petit peu plus que l'argent, en l'occurrence, puisque ça paye relativement bien. J'ai voulu offrir la paye que j'ai pas eue, moi, quand j'ai commencé.
Ça veut dire quoi, ça paye relativement bien ? Est-ce que tu peux me dire ?
Oui, bien sûr. J'ai certains de mes formateurs qui sont payés jusqu'à 60-70 euros de l'heure. Donc je marche, contrairement à des cours traditionnels où le formateur, comme moi j'ai commencé, hein, au début j'ai commencé à 12 euros, 9 euros de l'heure, et je devais encore déclarer des taxes, l'URSSAF et compagnie derrière. Donc, et on me demandait de le faire, en plus. Donc, du coup, il restait pas grand-chose. On va dire que pour manger des kebabs, c'est pas génial.
Ouais, donc c'est ouais, du x5, x6 potentiellement par rapport à ce que tu avais quand tu commençais. Ouais, c'est assez
exactement.
Fou. Ok. Ok. Mais écoute, c'est super intéressant. Et c'est quoi tes prochains challenges? C'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que ton but, où est-ce que tu vas t'arrêter? Est-ce que tu penses que tu vas recruter 100 formateurs et faire des millions? Ou est-ce qu'à un moment, tu vas rester quand même à, je dirais, taille humaine, même s'il y a encore de la marge avant que l'humain soit plus là?
Wow. En fait, le truc, c'est que j'ai une vision qui est très, qui est très dual sur la question, qui est assez binaire, pas binaire, mais on va dire qui est balancée sur la question. C'est-à-dire que moi, j'ai envie qu'un maximum de gens soient formés chez moi. Par contre, dans ma politique de dirigeant personnel, j'ai fait mon budget et ce que je me verse est très loin d'être mon chiffre d'affaires. Dans le sens où mon CA est de temps, mais moi, il me faut 2000 euros pour vivre. Je paye mon loyer, je me paye un resto de temps en temps, un bon livre. J'ai jamais eu besoin de plus que ça. Je suis pas un grand consommateur. Donc, faire des millions, pour une société peut-être. Pour moi, personnellement, j'en vois pas forcément l'intérêt, en tout cas, puisque je donne une partie de mon argent. Donc
Tu donnes une partie de ton argent, d'accord. Super, ouais. Super intéressant.
Je donne à des associations une partie de mes revenus. Donc moi, personnellement, non, pas spécialement de millions pour moi, en tout cas. Pour mes formateurs, oui, je les paye. C'est eux qui font le travail. Donc, il faut qu'ils soient rémunérés, les pauvres. Par contre, des millions, non, pas forcément. Où je me vois, par contre, en termes de société, au plus haut, au maximum. Je vois une société qui touchera bientôt l'international, puisque tous mes formateurs sont polyglottes, tous, sur des langues majeures. Donc, obligatoirement, je vois quelque chose qui dépasse les frontières de la francophonie.
Ok, super. Et alors, peut-être dernière question avant qu'on passe aux questions de la fin. Comment ton organisation s'est adaptée? Parce que c'est quand même pas la même chose de gérer en tant que formateur indépendant, c'est-à-dire que les formateurs qui travaillent avec toi ont une charge administrative, d'organisation qui est différente de la tienne. C'est quoi les principaux éléments que tu as à gérer aujourd'hui autour, parce qu'il y a Calliope, peut-être que tu as dû passer, mais au jour le jour, qu'est-ce qu'il y a qui te demande un petit peu de travail? Qu'est-ce que ça veut dire finalement pour un formateur indépendant qui voudrait se lancer, que ce soit sur la langue ou tout autre sujet, en se disant je vais peut-être recruter des gens et créer un vrai organisme de formation? Ça veut dire quoi?
Alors, bon, moi je suis pas une personne qui aime le papier. En toute honnêteté, sans mâcher mes mots, ça me fait chier.
Qui aime ça?
Donc, alors, il y a des gens dont c'est le métier, c'est à se poser des questions s'ils aiment pas un peu ça quand même.
Et vrai,
on a le droit d'aimer le papier. Les montagnes de papier, ça me fait penser à. Je sais pas si tu connais, dans Astérix et les 12 travaux, là, où aller chercher le formulaire B40 qui se trouve à l'étage 2, alinéa machin. Voilà, ça me fait penser à ça un petit peu parfois, à mes discussions avec l'URSSAF ou avec Edof. Bon, moi, je dis non au CPF, pour commencer. Donc, j'ai le Calliope, je ne travaille pas au CPF. Je renvoie vers mes partenaires qui, eux, le font. Et je forme pour eux, parce que j'ai des partenaires qui prennent le CPF, mais moi, je n'y touche pas.
Et alors, pourquoi avoir passé Calliope si tu ne fais pas le CPF? Parce que ça, c'est un choix que je n'ai jamais entendu encore, je crois.
Ouais, alors, je suis un déçu de Calliope, moi. Donc, tu vas rapidement comprendre. En gros, j'ai passé le Calliope en me disant... ce sera trop bien, comme ça mes clients ils pourront utiliser leur CPF et vas-y, ce sera génial et ils n'auront pas à payer les formations. Mais en fait, c'est une logique terrible parce que les gens qui utilisent 3/4 du temps leur CPF pour se payer des formations, 3/4 du temps, voire 90% du temps, ils s'en fichent de votre formation. Ils n'en ont rien à faire. Leur niveau d'implication est proche du néant. C'est très rare les gens qui aiment ça et qui veulent vraiment la formation que vous leur proposez. Donc, moi, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, au début, je les refusais automatiquement. Je leur disais, écoutez, vos motivations ne sont pas assez intéressantes. Je ne m'engage pas avec vous parce que je ne sens pas ce truc dont vous avez besoin, en fait. Vous n'avez pas de besoin.
Donc, t'as une éthique quand même qui est très forte, parce qu'il y en a d'autres qui, à ta place, auraient probablement dit « Moi, je prends l'argent, et puis tant pis s'ils sont pas
servis. » Ouais, c'est le cas des centres avec lesquels j'ai travaillé pendant très longtemps, ouais. Qui m'a poussé à lancer ma newsletter FLSQV, Formateur Life, sinon Kelvy, qui est sur donc mon profil LinkedIn. Et en fait, je me suis débarrassé des partenaires qui faisaient des trucs comme ça. Entre d'autres malversations, il y a eu plein de malversations, donc j'ai été témoin. Des trucs de zinzin, de la fraude au fonds handicap, avec de faux handicapés. Je suis le seul formateur de France à avoir fait lever un paralytique. Le mec s'est fait passer pour un handicapé pour avoir des fonds de formation. Et en plein cours, il s'est levé, il est allé boire un verre d'eau. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Et je me suis dit, non, d'un point de vue CPF, ça va pas être possible. Donc oui, il y a une éthique qui est forte, mais parce qu'il en faut. Sinon, c'est juste pas vivable. Donc, pour cette partie CPF, voilà. Donc moi, aujourd'hui, j'ai le Calliope. Je vais le renouveler parce que c'est un gage de qualité qui me permet d'avoir accès aux OPCO, qui très souvent sont plus qualitatifs que les CPF. Mais les CPF, maintenant, je n'y touche pas. Pas du tout. Okay. Veuillez garder ce CPF que je ne saurais voir. Voilà, gardez-le dans un coin. Utilisez-le pour faire une formation en cours sans sac. Voilà.
Donc aujourd'hui, tu as Calliope à gérer. Tu as peut-être t'as probablement des factures, des contrats.
Oui, factures, contrats, c'est ce qui prend. Ouais, les BPF de mes formateurs, parce que je leur fais leur BPF.
D'accord.
Quelle angoisse. Ça, c'est vraiment l'enfer, quoi. Bon, ça, c'est l'enfer. Après, il y a toute la partie que j'ai dû apprendre. Alors, on va dire que c'est une bonne problématique, mais en fait, ça m'a demandé un effort considérable. C'est la partie serrage de main. C'est-à-dire aller dans les salons, faire bonjour, vous allez bien. Ouais. Bon, à l'origine, je suis un formateur dans sa chambre. J'ai commencé comme ça, j'étais dans ma chambre. D'ailleurs, là, je suis dans mon bureau, mais il est proche de ma chambre. Concrètement, je travaille beaucoup de chez moi. Et le fait de devoir sortir, serrer des mains, décrocher des contrats, signer, faire toute cette espèce de businesserie, en fait, comme je l'appelle, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Mais j'ai appris à le faire. Et ça marche plutôt bien. Et les gens trouvent que je suis agréable. Il n'y a aucun souci. Au début, ça a été un effort. Je ne suis pas une personne mondaine.
Tu le regrettes pas ?
Ça, c'est le plus gros de ces efforts. Non, je ne le regrette pas parce que j'ai des opportunités de zinzin, en fait. À chaque fois que je vais quelque part et que je discute, très souvent, ça match. Très souvent, ça finit en signature. Ou alors, il y a une chose intéressante à faire. Ou alors, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de quelque chose. Finalement, ça se passe très bien. Mais parfois, je me sens lessivé, socialement parlant lessivé, c'est-à-dire obligé de me déplacer, de faire ce côté cérémonieux qu'on a en France. C'est un petit peu anxiogène, on va dire.
Ok, je comprends. Ok, et bien écoute Marcus, merci beaucoup pour toutes ces réponses, c'est super intéressant. Ce que je te propose, c'est donc de partir sur les questions de la fin, avec la première question qui est la plus large, la plus grosse. La formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi ?
La formation dans 10 ans, pour moi, c'est quoi ? Ce sont les environnements virtuels avec casque de réalité virtuelle.
D'accord.
J'ai moi-même un projet dans ce domaine-là qui nécessite une levée de fonds, parce que j'entreprends à côté dans d'autres entreprises que je lance dans le domaine linguistique et culturel. Et en fait, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement comme ça, puisque ça permettrait à des millions de Français de voyager sans lever leurs fesses de leur canapé et de ressortir avec des connaissances. Donc moi, je le vois dans 10 ans comme ça.
Ok, donc t'imagines un casque de réalité virtuelle où on sera à Dublin, peut-être entouré d'Irlandais, et on apprendra, on échangera directement avec eux parce qu'on aura toute la technologie pour. C'est comme ça que tu vois formation linguistique de l'an.
Alors c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le fais. Puisque je suis en train de le coder.
Oui, ça y est, on y arrive. On a ce qu'il faut.
Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que quand je te disais, oui, alors en tant que centre de formation, je ne sais pas. En tant que personne, je ne sais pas, mais en tant que centre de formation, peut-être au-delà de la francophonie et ainsi de suite, c'est ça que j'entends. C'est que actuellement, c'est un domaine qui est de plus en plus laissé, mis de côté à cause de cette histoire de métavers, voilà, le malheureux métavers de Mark Zuckerberg qui a fait flop. Ensuite, le casque, les lunettes là, d'Apple Vision Pro là, qui a fait flop aussi. Les gens ont rendu leurs produits. Bon, c'est pas grave. Sauf que c'est pas ce que je fais. Moi, je fais de l'environnement virtuel et pas du métavers. Et ça, c'est très important de le comprendre puisque nous sommes en train de créer un jeu vidéo avec le casque pour apprendre des langues.
Bah écoute, hâte de voir ça et je te souhaite beaucoup de succès là-dessus.
Merci beaucoup.
Dis-moi, est-ce qu'il y a un média ou une personne que tu as envie de nous recommander ?
Alors, je vais prendre cette personne dans mon domaine linguistique. S'il y a une chaîne YouTube que vous devez aller visiter pour vous taper de grosses baraques tout en apprenant des langues et en découvrant des choses, c'est la chaîne YouTube de Language Simp. Voilà, c'est un Américain, en l'occurrence, qui apprend les langues étrangères de manière, comment l'expliquer, très autistique, on va dire. C'est comme ça qu'il se présente, et c'est à la fois très drôle, très vrai, on va dire. Et il y a ce côté, on va dire, humoristique qui rend l'apprentissage linguistique super intéressant. Je suis derrière mon écran à chaque sortie de nouvelle vidéo, je suis le genre de personne qui
écrit first. On a envie de voir la vidéo suivante, quoi. Okay.
Exactement. Moi, je clique sur first. Je tape first dans les commentaires. Bon, on est 25 000, mais...
D'accord.
Voilà, c'est l'idée.
Ok. Est-ce qu'il y a un outil digital que tu as envie de partager ?
Complètement. Outil digital que j'ai très envie de vous partager, c'est l'application Anki, qui fait des merveilles. Bon, si mes étudiants en école m'écoutent, ils sauront déjà de quoi je parle, puisque je les bassine à longueur de journée avec Anki, est-ce que tu as fait ton Anki ou pas. Anki, c'est une application linguistique très laide, mais très pratique, et très, on va dire, c'est ça, très pratique, il n'y a rien de plus à dire en fait, où l'idée c'est de rentrer des cartes que vous pouvez faire à la main, par package, en les téléchargeant en ligne, des cartes par thème, je sais pas moi, l'anglais de la restauration, l'anglais de la levée de fonds, l'anglais de la banque, ainsi de suite. Et par un système de répétition espacée, vous allez apprendre un mot qui va se répercuter à un autre moment dans le temps. Genre dans 3 jours, il va revenir vous faire coucou et vous demander qui suis-je. Et si vous réussissez à retrouver ce mot, eh bien, il reviendra en 6 jours, dans 12 jours, dans 24 jours.
Si on rate, il revient plus vite. C'est ça le.
Si on rate, il revient plus vite, exactement. Et du coup, c'est juste excellent pour retenir. Des quantités de mots. J'ai moi-même, pour mon défi, apprendre l'espagnol en un mois, en novembre 2023, j'ai appris 1700 mots en espagnol, qui m'a permis d'obtenir un niveau B1.
Ah oui, d'accord. Donc en un mois, on peut arriver à un niveau B1 juste en faisant des flashcards, de ce que je comprends, en tout cas.
Des flashcards et en s'entraînant un peu à côté. Mais voilà. Voilà, les flashcards, ça aide beaucoup quand même.
Ça aide beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet ?
Oui, j'ai un livre que j'ai sur ma table de chevet qui s'appelle « Principes du succès » de Ray Dalio. Ça n'a rien à voir avec langues étrangères. « Principes de succès » de Ray Dalio. Alors, vous ne faites pas avoir par la couverture qui est noire, blanche et rouge. Je ne sais pas pourquoi il a mis ça, mais ça peut faire penser aux heures les plus sombres, mais pas du tout en fait. Hein. Ray Dalio, c'est un investisseur américain qui a travaillé dans des boîtes juste gigantesques. Et c'est un type qui a gagné énormément d'argent, qui a tout perdu et qui a tout regagné, qui a tout reperdu et qui a tout regagné. Et aujourd'hui, il est au top du top. Et il nous partage ses meilleurs principes de vie et de business. Et c'est une véritable masterclass. Voilà ce que je recommanderais. C'est une masterclass personnelle et entrepreneuriale. J'ai appris, je ne vais pas dire autant dans ce bouquin que ce que j'ai pu apprendre quand j'ai fait mon année chez Harvard, il y a 2 ans de ça. Mais j'ai vraiment retrouvé énormément de principes et je pense que ce genre de principes entrepreneuriaux devrait être visité en tout cas par beaucoup d'entrepreneurs français.
Pour avoir lu le livre, je ne peux que le recommander également et ça vous apprendra à regarder en First Principle. Donc oui, très 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 bon livre effectivement, surtout si vous êtes entrepreneur, je ne peux que le recommander également. Marcus, où est-ce qu'on peut te trouver ? Plutôt digitalement, je suppose.
Alors, soit vous avez mon site web snackar.com, donc snackar.com, soit vous me retrouverez sur LinkedIn, puisque je poste une fois par jour minimum sur divers sujets, que ce soit les langues étrangères, ma vie de formateur, ma vie de dirigeant de centre de formation, que j'assume enfin, et d'autres sujets. J'aime bien faire des anecdotes de zinzin. Voilà, vous verrez, j'ai un bob sur la tête où c'est marqué « Sorry, not sorry ». voilà, donc c'est là où vous me retrouverez le plus souvent.
Très chouette la photo LinkedIn, effectivement. Vous le reconnaîtrez avec le bob, effectivement, assez facilement. Marcus, est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast ? Et avant que tu le dises, je tiens à te remercier d'être passé dans l'épisode parce que c'était vraiment super intéressant. Et je pense que tu as raison, il faut qu'on apprenne tous plus de langues pour être un petit peu moins des OSS à l'étranger. Donc, ouais. Je suis très content d'avoir fait cet épisode avec toi.
Ben merci en tout cas beaucoup à toi pour l'invitation. Merci à EduSign aussi pour ce qu'ils font pour les étudiants, parce que bon, nous, dans les écoles dans lesquelles je travaille, on utilise EduSign et c'est extrêmement pratique pour les émargements et le suivi des apprenants. Un mot de la fin, restez curieux de tout.
C'est tout. Bah écoute, Marcus, mais super, ouais, très bien, très court, très efficace. Je te remercie encore une fois, et je te souhaite de très belles formations, et puis à la prochaine.
Merci infiniment, à bientôt.
Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.